2022. Nouvel album, là, qui arrive, de Clara Lucieni, en train de peaufiner. J'espère que ça arrivera d'ici la fin de l'année. On va se quitter là-dessus. Caroline prend le relais maintenant. Je vous embrasse fort. Rendez-vous demain. Puis vous n'oubliez pas, vous nous écoutez aussi sur le podcast H24. Alors ça, c'est sur les plateformes partenaires ou sur l'appli RTL.
Toute la journée sur Bel RTL, la musique, c'est ça. Les soirs, Bel RTL vous offre toute la musique que vous aimez.
Bel RTL. C'est l'heure du crime sur RTL.
Avec Jean-Alphonse Richard.
C'était une jeune femme timide, très réservée sur elle-même. C'est quelqu'un, Isabelle, avec qui on pouvait difficilement être en désaccord.
Bonjour, le chauffagiste Eric Mosser a toujours démenti avoir tué son épouse Isabelle en septembre 2013. Une femme qu'il aimait et avec qui il s'entendait bien, répétait-il en boucle. On ne l'a pas cru, il a été condamné 2 fois à 20 ans de prison, il clame toujours son innocence, il dépose aujourd'hui une demande de révision pour un 3e procès. À l'époque, l'enquête a zigzagué entre les hypothèses, un cambrioleur affolé, une connaissance de la victime, un tueur en série, jusqu'à ce que les investigations se recentrent sur le mari et lèvent le voile sur ses petits et ses gros mensonges, une double vie sentimentale des plus agitées, une ribambelle de maîtresse. Les enquêteurs vont avoir la conviction que cet homme voulait en fait s'offrir une nouvelle vie au point d'effacer le seul obstacle qui le gênait. Mais est-ce vraiment le bon scénario? Le doute aurait-il une chance de l'emporter? Question posée aujourd'hui à nos invités. L'affaire Eric Mosser, le meurtre de la rue du Château. Pourquoi un voleur aurait poignardé l'épouse dans le dos pour laisser derrière lui tout ce qui avait de la valeur? L'enquête de l'heure du crime, la seule émission radio 100% fait divers. À tout de suite sur RTL.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et l'heure du crime.
Allez ce soir, viens, je t'emmène. Non, ne prends rien, c'est pas la peine. Accorde-moi ta cadence comme une dernière évidence. Dehors il pleut, chacun sait, mais chacun danse comme il peut. Ce soir la sueur brûle nos yeux et on dirait qu'on est heureux. Sèche tes pleurs, rien qu'une heure. C'est comme pour écrire une histoire, il suffit juste d'y croire. La nuit est belle, ardente, troublante et infidèle. Et si les étoiles s'en mêlent, le ballet sera éternel. Comme une dernière évidence, comme une danse, comme une danse. Dehors il pleut, c'est une chance et peu importe la cadence. Alors danse pour moi, comme je danse pour toi. Et si les étoiles s'en mêlent, le ballet sera éternel. Alors danse. Lève-toi et viens vers moi, il y a si longtemps qu'on n'a pas fait ça. Je t'attends dans ce bar, il est 1h15. Je reviendrai si tu m'attends peut-être demain soir. Mon ami, mon amour, mon délit, mon détour, mon appel au secours, bien sûr pour toi je serai toujours. Comme une dernière évidence, comme une danse, comme une danse. Dehors il pleut, c'est une chance, et peu importe la cadence. Alors danse pour moi, comme je danse pour toi. Et si les étoiles s'en mêlent, le ballet sera éternel. Alors danse pour moi, comme je danse pour toi. Lève-toi et viens vers moi, il y a si longtemps qu'on n'a pas fait ça. Allez, remplis nos verres, ne regarde pas derrière et fais couler nos souvenirs. À nos années guerrières, à nos têtes à l'envers, surtout à nos éclats de rire. Mais qu'est-il advenu de nous? Pourquoi l'amour est à genoux? Et puis pourquoi tous ces regards, pourquoi tous ces gens dans ce bar? Alors danse pour moi, comme je danse pour toi. Et si les étoiles s'en mêlent, le ballet sera éternel.
RTL. L'heure du crime.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Éric Mosser, ce chauffagiste qui vit près de Mulhouse dans le Haut-Rhin, se retrouve à la fin de l'été 2013 aux premières loges d'un meurtre, celui de sa femme. Un crime qui a toute l'allure d'un cambriolage raté. Jeudi 12 septembre 2013, 17h20, les gendarmes sont appelés rue du Château, sur les hauteurs du village d'Ilfurt, à 13 km de Mulhouse. Une femme inanimée a été découverte ici. Le plombier chauffagiste Éric Mosser, 45 ans, les attend sur le seuil d'une imposante maison. Sa belle-sœur, Karine Baudin, dont la famille occupe l'autre partie de la demeure, est avec lui. L'artisan, en tenue de travail, est en état de choc. Quand sa belle-sœur l'a prévenu que son épouse Isabelle n'était pas passée à l'école pour y chercher leur fille de 7 ans et leur petit cousin, il est rentré dardard. En entrant, il a découvert les pièces sans dessus, dessous. Tout est renversé, dit-il. Puis, il a vu sa femme qui gît dans une mare de sang, Isabelle Mosser, vêtue d'un survêtement d'intérieur, est morte après avoir reçu 8 coups de couteau. 1 dans la poitrine, 7 dans le dos. Selon le légiste, les coups ont été portés de façon rapide, par surprise. La victime ne s'est pas défendue. Impossible de préciser l'heure du décès, entre la matinée et le début de l'après-midi, dit le médecin. Karine a vu sa sœur à 7h45, Isabelle lui a confié sa fille pour l'emmener à l'école. Éric Mosser, lui, est parti au travail une demi-heure plus tard. À 9h08, Isabelle n'a pas répondu à un appel de sa mère. Dès lors, plus personne n'est parvenu à la joindre. Jeudi 19 septembre, une information judiciaire pour meurtre est ouverte. Les gendarmes multiplient les vérifications. Dans la tranquille rue du Château, personne n'a rien vu, rien entendu. L'hypothèse du cambriolage laisse les enquêteurs perplexes. Les tiroirs ont été retirés des meubles en douceur. Les dégâts sont minimes. Aucun objet précieux n'a été emporté. Le voleur n'a pas pris les bijoux, n'a pas pris le téléphone, n'a pas pris l'argent. Éric Mosser déclare un vol de 500 euros en espèces. Pourquoi un individu aurait surpris Isabelle Mosser, l'aurait poignardé dans le dos pour laisser derrière lui tout ce qui avait de la valeur, s'interroge un enquêteur. La piste de deux Roumains arrêtés après avoir tenté de cambrioler la maison d'en face 6 mois plus tôt est explorée. Ils sont mis hors de cause. La présence d'un tueur suisse en cavale signalé dans la région est étudiée sans résultat, tout comme celle d'un homme qui aurait eu des mots avec Isabelle Mosser à la patinoire de Mulhouse. Lundi 13 octobre, un mois après le meurtre, Éric Mosser, qui dépouille un paquet de lettres, trouve au dos d'une enveloppe un texte bourré de fautes d'orthographe. Un homme s'accuse du meurtre. Il avait eu une altercation avec Isabelle, dit-il, sur le parking du magasin Cora. Il a voulu se venger. Détail important, il désigne la victime sous les sobriquets de Belly ou Belly Chance, des surnoms seulement connu de quelques proches. Un voisin est inquiété, puis écarté du dossier. 8 personnes dont le mari sont convoquées pour un test d'écriture. L'analyse graphologique ne désigne aucun d'eux comme l'auteur du texte. Des témoignages qui vont évoluer et faire un virage à 180 degrés, car c'est un tout autre Éric Mosser que vont découvrir les enquêteurs, homme à femme, habitué aux mensonges, qui multiplie les maîtresses et qui a peut-être, dit-on, des penchants violents. Mais on va pas aller trop vite, on va voir tout ça, toute cette mauvaise réputation dans la suite de l'émission. Pour l'instant, il faut revenir à Ilfurt, dans ce village près de Mulhouse, avec le meurtre d'Isabelle Mosser. Bonjour Alain Cheval.
Oui, bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous au téléphone de l'heure du crime et en direct sur RTL. Vous êtes journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace. Vous connaissez bien cette affaire parce que vous l'avez suivie depuis le début. Affaire effectivement intrigante. Alors on part déjà sur un crime, Alain, vraiment d'une rare soudaineté et beaucoup de brutalité, c'est ça ?
C'est exactement ça. Alors surtout un crime qui pose beaucoup de questions. Alors dès le départ, le parquet de Mulhouse qui est saisi fait appel à la section de recherche de Strasbourg, et on sait que pendant près de 48 heures, les enquêteurs et les experts de la gendarmerie vont rester sur place et vont faire à peu près 300 échantillons de prélèvements, envoyer tout ça à l'Institut de recherche criminelle de gendarmerie de Rosny-sous-Bois. C'est extrêmement rare qu'on mette autant de moyens pour essayer de voir si les auteurs de ce meurtre, on les fait des traces derrière eux. Mais c'est vrai que d'entrée, les gendarmes se questionnent sur cette scène d'une rare brutalité. Et c'est vrai que ça rime pas vraiment avec un cambriolage qui tourne mal. Ouais. On sait que dans 99% des cas, un cambrioleur, lorsqu'il se fait surprendre, à la limite, il va bousculer la personne qui le surprend. Mais de là à lui asséner
un
couteau, on parle vraiment de le mot est fort. On dit qu'elle a été lardée de coups de couteau.
Oui, c'est ça.
Dans le dos, un en face. Et elle est morte d'ailleurs d'un pneumothorax, hein, c'est-à-dire le poumon qui a été perforé à 4 reprises.
C'est ça. Donc elle est morte assez rapidement finalement, mais elle a été brutalisée avec force, cette femme. Encore un mot, Alain Cheval, le quartier. Il y a ce petit village, Ilfurt. Cette rue du Château, elle est bordée de maisons individuelles. Je ne connais pas ce village, mais j'ai regardé des photos, j'ai regardé des vidéos sur cette rue. C'est plus que tranquille, j'ai envie de dire.
C'est extrêmement tranquille. Alors, je sais que ça ne fera pas de plaisir aux habitants de ce village. C'est une résidence, enfin, c'est un village dortoir, c'est-à-dire on part le matin assez tôt, on revient le soir.
C'est ça.
La maison de la famille Mosser est en hauteur, située entre la forêt et une ligne de chemin de fer. C'est important parce que c'est vrai que quand on va avancer dans l'enquête, on va faire une enquête de voisinage, on va voir si on a entendu quelque chose. On n'a rien entendu, on n'a rien vu.
Rien du tout.
Mais sans doute la situation géographique et le fait que ce soit une ville dortoir peuvent expliquer qu'on n'ait rien vu, rien entendu.
Bonjour Maître Claude Laurent.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Et vous êtes d'ailleurs spécialiste des affaires qui ne sont pas résolues, en tout cas qui ont eu un cours un peu tortueux en justice, et vous reprenez beaucoup de ces dossiers. On vous connaît évidemment pour beaucoup de ces dossiers, et c'est l'affaire Éric Mosser aujourd'hui que vous traitez. Vous êtes l'avocat d'Éric Mosser parce que effectivement il veut la révision de son procès. On va en parler un peu plus loin et vous vous chargez de ce dossier qui est difficile et qui est lourd. Alors Claude Laurent, on découvre ce couple Éric et Isabelle Mosser. Qui sont-ils? Que vous dit votre client là-dessus sur sa vie avec Isabelle?
Alors, avant de répondre à votre question, je fais une petite parenthèse pour expliquer que je suis dans un combat contre l'erreur judiciaire.
C'est ça.
Dans cette affaire. Donc, et je tiens à souligner que ce combat contre l'erreur judiciaire n'est pas un combat, c'est un combat pour la justice. Toute justice a besoin d'une respiration et de la découverte d'erreurs judiciaires. Maintenant, je vais répondre à votre question. Effectivement, Éric Mosser trompait sa femme, comme pas un. Vous savez, avec mes clients, je suis très dur.
Ouais, ouais.
Par contre, je les défends au mieux que je peux, mais j'ose dire tout.
Mais qu'est-ce qu'il vous
dit ? Mais attendez,
allez-y.
Faut compléter. Pas une violence en 20 ans, ni psychologique, ni physique. Important.
Ben oui.
Deuxième chose, Isabelle Mosser avait la carte bleue du couple, et elle pouvait dépenser tant qu'elle voulait. Il lui a jamais fait une remarque. Troisième chose, parmi beaucoup d'autres, il venait de partir à New York. Elle est décédée en septembre, je crois que c'est au mois d'août.
Ils étaient partis tous les deux, c'est ça?
Oui. Ouais. Quatrième chose, elle avait à sa disposition une voiture, je sais plus la marque, de 100 000 euros à peu près.
Ouais. Bon, moi, ce que vous dites, c'est que
ce que je dis, c'est que un mari qui est dans l'idée de tuer sa femme pour s'en débarrasser, c'est rare qu'il lui accorde autant de cadeaux et de c'était un brave type,
ou qu'il n'ait pas montré de signes précurseurs
effectivement, oui,
d'une action violente. Au fil des mois, la double vie du mari chauffagiste va émerger. L'affaire Éric Mosser, le meurtre de la rue du Château. J'étais sa maîtresse quand je lui ai dit que tout était fini. Il m'a jeté un regard noir. Je me suis alors demandé si Isabelle n'était pas morte à cause de moi. L'enquête de l'heure du crime. On se retrouve dans un instant sur RTL. Stand on the shore.
I try to cross to the opposite side so I can finally find what I've been looking for. In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the valley of fear, to a river so deep. I'm in search of something, taken out of my soul. Until I find what it is I've been looking for. In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the jungle of doubt, to the river so deep. I know I'm searching for something, something so undefined, that it can only be seen by the eyes of the blind. In the middle of the night, in the middle of the night, I go walking in my sleep, through the desert of the truth, to the rivers of deep. We all end in the ocean, we all start in the streams. We're all carried along by the river of dreams. In the middle of the night,
du crime consacré aujourd'hui à l'affaire Éric Mosser. Fin été 2013, l'épouse de ce chauvagiste a été retrouvée chez elle, près de Mulhouse, tuée de 8 coups de couteau. L'hypothèse du cambriolage ne tient pas. Les enquêteurs s'intéressent de près au mari et à sa double vie. Jeudi 12 et samedi 14 septembre 2013, jour et surlendemain du crime, Éric Mosser a été entendu une première fois sur son emploi du temps. Le matin du crime, il dit avoir quitté sa femme à 8h15-8h20. Il s'est rendu chez une cliente à Danemarie. Il est arrivé sur le chantier autour de 8h40. La cliente rectifie l'horaire. Selon elle, le chauffagiste était en retard. Il devait être là à 8h30, il s'est pointé à 9h05. Les clients suivants évoquent tous un retard. À son épouse Isabelle, Éric Mosser laisse d'ailleurs un message disant qu'il ne rentrerait pas déjeuner car il a une demi-heure de retard. Les gendarmes s'interrogent. L'artisan, à cheval sur les horaires, serait-il parti plus tard de chez lui en raison du crime qu'il aurait commis ? Les enquêteurs fouillent dans la vie de couple d'Éric Mosser. Il la décrit, lui, sans nuages. Isabelle, pourtant consultée une voyante à qui elle racontait ses difficultés de femme mariée. Elle évoquait les infidélités répétées de son époux. Elle s'était également confiée à une grand-tante. Les gendarmes découvrent les multiples liaisons entretenues par Éric Mosser. Une dizaine de maîtresses identifiées. Catherine reconnaît une relation qui dure depuis 30 ans. Evelyne, ancienne amie d'Isabelle, a eu une liaison entre 2010 et 2012. Karine a pris le relais de 2012 à mai 2014. Elle a rencontré Éric lors d'une installation de chaudière. Il lui a affirmé qu'il voulait refaire sa vie avec elle, mais il n'a pas tenu parole. La veille du crime, elle lui a annoncé qu'elle rompait. Il a eu un regard noir qui m'a fait peur. Quand j'ai appris le meurtre, ma première pensée a été de me demander si Isabelle n'était pas morte à cause de moi, témoigne-t-elle. Karine a revu Éric Mosser après le crime. Il lui a alors servi une histoire invraisemblable. Un jour, il a tué un homme dans une bagarre. le frère de cet homme serait venu pour se venger. Éric Mosser a parfois tendance à la fabulation. À Sophie, une autre maîtresse, il avait affirmé qu'il n'était pas marié. Isabelle n'était que son ancienne femme de ménage qu'il avait séduite sous la douche. Un mensonge grossier. Mercredi 18 juin 2014, 9 mois après le meurtre, Éric Mosser est en garde à vue. Il répète que le 12 septembre 2013, il a quitté Isabelle, vivante, à 8h20. La téléphonie indique qu'il a mis 45 minutes pour faire le trajet Ilfurt d'Anne-Marie au lieu des 20 minutes habituelles. Il ne s'explique pas ce retard. Les experts estiment qu'il est resté 35 minutes seul avec sa femme, suffisant pour passer à l'acte et maquiller la scène de crime en cambriolage. Éric Mosser admet avoir eu des maîtresses, mais c'est d'Isabelle qu'il était amoureux, même s'il envisageait de la quitter à la fin de l'année. Selon les enquêteurs, le suspect n'a montré aucune émotion en garde à vue. Il est mis en examen et écroué. Un mari empêtré dans des mensonges, il est placé face à ce retard dans la tournée chez ses clients qu'il ne peut pas expliquer, en tout cas à ce stade. Les enquêteurs estiment donc qu'il est le seul suspect. 9 mois donc pour qu'il soit mis en examen et incarcéré. Alors il faut reprendre tout de suite ces points qui l'incriminent et on le fait tout de suite avec Maître Claude Laurent qui est l'un de nos invités aujourd'hui, avocat au barreau de Paris, avocat d'Éric Mosser. C'est vous qui tenez ce dossier, Maître Laurent. Alors il y a d'abord ce retard.
Oui.
Là, les enquêteurs, ils sont formels. Il n'est pas allé assez vite sur cette route. Et lui, il dit, je sais pas pourquoi.
Mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Il est arrivé 10 minutes à peu près en retard. Et moi, ce qui me surprend, et bon, évidemment, j'ai passé des heures à décortiquer chaque élément du dossier. Donc, ce retard, pour moi, m'apparaît la 18e roue du carrosse. Quel est l'artisan chauffagiste qui n'arrive pas en retard pour un dépannage. Alors, la question qui était intéressante, c'est de dire le parcours, si on ne s'arrête pas, c'est de 30 minutes, de 20 minutes, 22 enfin, minutes à peu près. C'est ce que voilà. Et vous avez mis 30 minutes, 35. Bon, ça s'explique par le fait qu'il était passé par chez sa maîtresse.
Mais il le dit pas.
Non, mais voilà.
Il le dit pas.
Non, mais attendez.
Alors,
attendez.
Évidemment.
Alors là, c'est important parce que voyez, faut être clair. Est-ce qu'un menteur est forcément un criminel ?
Non, certainement voilà. Pas.
Donc c'est tout. À partir du moment où vous avez, on sait que il a menti énormément sur des choses qui sont des petites choses, mais d'un autre côté, faut aussi penser que mettez-vous dans l'idée que vous-même ou moi, on est accusé d'un crime. Bien sûr, avec l'expérience qu'on a, on va pas mentir. Mais quelqu'un qui n'a aucune expérience peut perdre la tête et se mettre à mentir en disant « si je dis ça, on va m'accuser », vous voyez. Donc, tout s'explique.
Petite question encore, Maître Laurent, parce qu'elle est importante cette question. Moi, ça m'a beaucoup troublé. Est-ce qu'on retrouve du sang sur ses habits, sur son corps, à ce suspect ? Est-ce qu'il y a du sang dans la maison ? Beaucoup de sang, pas beaucoup ?
Alors, effectivement, c'est un moment crucial du dossier. Rappelez-vous de l'affaire Le Landais. Il nettoie sa voiture 4 fois
Karcher,
et on retrouve une micro-tache qui correspond à l'ADN de la petite fille, qui était dans une rainure. Bon, le même traitement d'investigation avec Blue Star et tous les moyens techniques et scientifiques a été effectué sur la voiture de Monsieur Mosser qui aurait servi juste après le crime pour se voyez
et rien n'a été trouvé. On trouve rien. Les habits qu'il avait, ses habits de travail, etc. On trouve rien.
Ça n'est alors une petite parenthèse, mais je vais très vite parce que le temps nous presse. Au niveau scientifique, les expertises sur la téléphonie, sur les ordinateurs n'ont rien donné. Aucun témoin n'a vu quoi que ce soit. En fait, toutes les preuves formelles dont on a l'habitude sont absentes.
Elles sont absentes, elles sont pas dans le dossier. D'ailleurs, les enquêteurs, ils vont le reconnaître. Il n'y a pas de preuves formelles. Alain Cheval, journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace, vous êtes avec nous dans cette heure du crime et vous connaissez parfaitement ce dossier. Alors, parlez-nous de ces découvertes des enquêteurs. Ces maîtresses, 10 maîtresses recensées.
À peu près, oui. Ils vont s'intéresser, les enquêteurs, très rapidement à sa vie intime. Donc, on va exploiter son téléphone, on va se rendre compte effectivement qu'il connaissait beaucoup de personnes, beaucoup de femmes. On lui attribue une double, voire peut-être même une triple vie. en fait, sa force était de pouvoir compartimenter sa vie, c'est-à-dire il avait sa vie avec sa femme, avec sa fille, sa belle-sœur et son mari. Ils passaient des vacances ensemble et puis il avait sa vie avec sa maîtresse ou sa compagne officielle. Donc il pouvait partir soi-disant en séminaire ou en formation. Il emmenait une de ses maîtresses. Il partait en vacances aussi les week-ends. Il pouvait prendre un week-end avec ses maîtresses, mais personne n'en était au courant à part les maîtresses. Mais bon, comme il racontait des histoires à tout le monde, personne n'a jamais fait le lien. Et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est un homme à femme. Je crois qu'une de ses maîtresses, il la connaissait depuis plus de 30 ans.
Ça donne
une idée du personnage. Après, on n'est pas là pour juger. Il fait ce qu'il veut. Voilà. Mmh. Mais c'est vrai que ça donne un peu une coloration à ce dossier. C'est-à-dire, il ment peut-être. Effectivement, il n'a pas l'habitude des interrogatoires, des gardes à vue. Mais en tous les cas, il raconte pas tout.
Voilà, il raconte pas tout. Effectivement, ça finit par peser parce que c'est un engrenage, un mensonge l'entraîne un autre. Et effectivement, il va pas se dépêtrer de cette espèce de toile d'araignée. Un chauffagiste qui nie avoir tué sa femme, mais qui va être jugé. L'affaire Éric Mosser, le meurtre de la rue du Château. Pas de preuves, pas d'heure de la mort. C'est le concours l'épine de l'hypothèse. L'enquête de l'heure du crime. Qui est cet accusé qui ne montre aucune culpabilité, aucune tristesse, aucune angoisse? C'est à suivre dans un court instant sur RTL.
Résister au chant des sirènes. Je veux croire en la paix pour pas mourir de haine. Je dois résister, alors je te dis je t'aime. Il faudrait qu'on se parle pour comprendre nos peines. Désolé, j'ai trop mal. C'est que t'as mal, alors on fait quoi mon frère? What about peace? What about freedom? What about love for all the children in this crazy world? Oh, what about peace? What about freedom? What about love for all the children in this crazy world? Résister, au moins pour nos enfants. J'ai si peur de ce monde qu'on laisse en partant. Faut rien lâcher et se tenir debout, même si tout est chaos.
Jean-Alphonse Richard.
Si effectivement nous pouvons discerner un mobile au crime, un mobile du crime, dans cette vie conjugale particulière, alors là, ça commence, bien entendu, à m'intéresser.
Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, l'affaire Éric Mosser, ce plombier chauffagiste soupçonné d'avoir tué son épouse Isabelle, septembre 2013, dans leur maison près de Mulhouse, est jugé 4 ans plus tard. Il n'a jamais cessé de nier son implication dans le meurtre. Lundi 13 mars 2017, Éric Mosser, 48 ans, chemise sombre, lunettes, front dégarni, est devant la cour d'assises du Haut-Rhin à Colmar. Les enquêteurs le décrivent comme un menteur compulsif, un dissimulateur, un mythomane. Une experte psychologue dit avoir été étonnée de la description qu'il fait de sa relation avec Isabelle. C'est celle d'un couple idéal. En réalité, Mosser cacherait et réfrénerait une importante impulsivité, dépeint comme un individu qui n'a pas de sentiment de culpabilité, pas de tristesse, pas d'angoisse. Il répète qu'il n'a pas tué son épouse. Il l'a décrit le matin du meurtre. Elle a bu du lait avec du cacao. Elle a mangé des tartines. Vers 7h25, elle a préparé notre fille pour l'école. Karine est passée la chercher. J'ai chargé la camionnette. Je suis arrivé chez la cliente vers 8h50. J'avais été un peu retardé par les travaux sur la route, dit-il. Son avocat, maître Éric Dupont-Moretti, dénonce un dossier bâclé. Pas de preuves, une heure de la mort imprécise, aucun témoin. C'est le concours l'épine de l'hypothèse, lance le défenseur. L'accusation estime qu'il s'est disputé, a tué de façon impulsive. 17 mars, Éric Mosser est condamné à 20 ans de réclusion. Lundi 25 juin 2019, Éric Mosser, 49 ans, cheveux rasés, chemise à carreaux, comparé en appel devant la cour d'assises du Bas-Rhin à Strasbourg. « J'ai la certitude que cet homme est le meurtrier », déclare l'avocat général. L'avocat de l'accusé dénonce à nouveau un dossier à charge et sans preuve. « Je n'ai pas tué ma femme », répète Éric Mosser. La partie civile lui répond que s'il n'y a pas d'aveu, eh bien il y a un dossier. Verdict confirmé, 20 ans de prison. Deux procès. Deux verdicts identiques. On a l'impression que cette fois, la messe est dite. Le doute, en tout cas, s'il y a doute, il ne profite pas à l'accusé. Maître Claude Laurent, vous êtes d'accord avec cette démonstration? Vous êtes l'avocat d'Éric Mosser, vous n'étiez pas à ce procès, je le précise, vous êtes venu plus tard dans la procédure. S'il y a de doute, il est passé à côté, Mosser.
Effectivement, sur ce dossier, oui, il aurait pu être acquitté. Sur ce dossier,
il n'est pas 20 ans. Voilà.
Mais par contre, ce qu'il faut voir, et je vais le dire très vite, je sais qu'on est pressé, c'est que l'ordonnance de renvoi, elle explique comment s'est passé le raisonnement des enquêteurs qui est repris par la suite, par les juges.
Par l'accusation.
Voilà. C'est-à-dire qu'on a cherché qui? Vous l'avez énoncé tout à l'heure. Les Roumains,
le tueur en série, etc.
À la fin, ils disent... Il n'y a plus
Lui.
Alors, il n'y a plus que la piste Éric Mosser. Donc, on peut en déduire que si jamais leur raisonnement précédent était mauvais, qu'ils avaient oublié quelque chose, ensuite, on grossit les traits des éléments à charge, c'est habituel, c'est-à-dire il y a un trou, c'est très grave, les menteurs, c'est très grave. On diabolise la personne qui, elle, est totalement figée sur un box des assises, et on vient dire, c'est lui, vous avez le... Alors, ce qui se passe, c'est que, quand on reprend après, comme je l'ai fait, j'en tire pas de titre de gloire, c'est beaucoup plus facile, quand tout est fait, quand vous avez un immeuble qui a été fait, construit, oui, de dire, là, il y a une fissure.
Voilà, c'est de voir les malfaçons.
Donc j'ai passé beaucoup de temps, et j'ai trouvé beaucoup d'éléments, qui n'avait pas été examiné ni par les juges, ni par les policiers, que j'estime étant suffisant pour prouver l'innocence.
Alors, on va revenir sur ces éléments parce qu'ils sont importants, mais on va revenir dans un petit moment. Je voudrais qu'on ait en ligne Alain Cheval, qui est journaliste aux Dernières Nouvelles d'Alsace et qui est l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime. Je rappelle Alain Cheval que vous avez suivi toute cette affaire pour les DNA, les Dernières Nouvelles d'Alsace, le grand journal de cette région. Finalement, je reprends ce que dit Maître Claude Laurent. Le postulat qui fait finalement condamner cet homme, c'est qu'il est seul dans la maison. Il n'y a pas d'autre suspect qui est apparu.
Ben non, effectivement, mais il faut bien qu'il y ait un coupable dans cette histoire. On a fermé, les enquêteurs ont refermé absolument toutes les portes. Et c'est vrai que le comportement d'Éric Mosser pose question. Même pendant les deux procès, il passe pas pour quelqu'un de sympathique. On sait que il est menteur, on sait qu'il est capable de manipuler. On sait que le fameux courrier, on en a parlé rapidement,
Courrier anonyme, le mot anonyme
qu'il va qui va. On a l'impression que c'est une mise en scène, c'est-à-dire il va chercher le courrier. Il faut savoir que la maison est sous scellée, on peut pas y accéder. La maison de sa belle-sœur et de son époux, il peut y accéder. Il va chercher le courrier, il commence à l'ouvrir devant ses proches, et il tourne ce courrier qui est a priori sans importance. Et derrière, c'est écrit ce que vous avez dit.
C'est ça, j'ai tué ma femme.
Qui s'octroie ce meurtre. On va faire des analyses graphologiques et en fait, on va faire cette analyse sur 8 personnes de son entourage. Deux personnes possiblement peuvent avoir écrit ça, lui et son fils Eric. J'ai plus le prénom de c'est Kevin, j'ai plus son prénom. En tous les cas, on resserre l'enquête autour du fils, parce que son fils de 22 ans a de très mauvais rapports avec sa belle-mère, et on a par moment l'impression que Eric n'hésite pas à orienter les enquêteurs vers ce fils. Ce courrier laisse penser que ça pourrait être quelqu'un de l'entourage.
De l'entourage, parce qu'il connaît. Effectivement, c'est quelqu'un qui connaît cette famille, en tout cas.
Oui, il oriente, on va dire, de manière à peine voilée, les enquêteurs vers un voisin qui avait un œil bienveillant sur son épouse. Donc, il n'hésite pas à utiliser, peut-être à manipuler. Et tout ça, ça ressort, ça transpire dans ce procès. Et c'est vrai que, faute d'indices graves et concordants, faute d'un faisceau d'indices assez probants, on va le condamner. Alors, c'est vrai que restera toujours un doute.
Ben oui.
Il aurait dû profiter, mais qu'il ne profite pas.
Et effectivement, il y a deux procès, 2 fois 20 ans de prison, et effectivement, le doute ne lui a pas profité. Le mari chauffagiste reste en prison, mais il n'a pas dit son dernier mot. L'affaire Eric Mosser, le meurtre de la rue du Château, elle n'a pas pu être tuée avant 10h du matin. À cette heure-là, le mari était sur un chantier. L'enquête de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Thank you.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Retour aujourd'hui dans l'heure du crime sur l'affaire Éric Mosser. Ce plombier chauffagiste du Haut-Rhin, accusé d'avoir tué son épouse en 2013, a été deux fois condamné à 20 ans de prison, 6 ans après le deuxième verdict. Il demande la révision de sa condamnation. Mercredi 24 avril 2024, Éric Mosser, 55 ans, et son avocat Claude Laurente, connu pour traquer les erreurs judiciaires, déposent une requête devant la cour de révision. Maître Laurente a reçu tout le dossier. Il s'est particulièrement intéressé à l'heure du crime. Selon lui, Isabelle Mosser a été vue vivante par sa sœur à 7h45 dans la maison d'Ilfurt. Éric Mosser a été vu dans sa camionnette vers 8h15-8h20 alors qu'il quittait le village. Il n'était pas vraiment en retard à ce moment-là. L'avocat dit encore avoir relevé des éléments troublants dans le rapport d'autopsie. L'estomac de la victime ne contenait aucune particule alimentaire alors qu'elle aurait été tuée peu après son petit déjeuner. Sa digestion n'était donc pas terminée quand elle est morte. La digestion prend 2 ou 3 heures. Elle n'a donc pas pu être tuée avant 10h du matin car à cette heure-là, M. Mosser était sur un chantier, assure l'avocat. La commission d'instruction de la cour de révision ne devrait pas se prononcer avant plusieurs mois sur cette requête. La famille d'Isabelle se retrouve pour sa part confrontée à une nouvelle épreuve judiciaire dont elle se serait bien passée. Son avocat, Thierry Mosser, espérait que les choses en resteraient là. Il se dit relativement optimiste pour la suite, le dossier ayant déjà été examiné par 2 cours d'assises. Maître Claude Laurente, c'est vous effectivement, je viens de le dire, qui êtes l'avocat d'Éric Mosser, et c'est vous qui portez cette requête en révision. Il faut savoir que les révisions de procès sont extrêmement rares en France, et on peut le regretter d'ailleurs, parce qu'il y a des cas où effectivement ça méritait sans doute un nouveau procès. Qu'est-ce qu'elle dit, votre requête?
Alors, attendez, avant, je me permets de faire une petite précision, digression sur le fait que monsieur Alain Cheval, excellent journaliste,
qui est notre autre invité aujourd'hui,
n'a pas dit tout à fait ce que je pense par rapport au dossier. Sur la question de l'analyse graphologique, le scripteur, qui a donc l'auteur de la lettre, avait imité l'écriture de Kevin Mosser. Le scripteur. Hein. Donc, c'était pas Kevin Mosser, mais il avait imité l'écriture. Et deuxième chose, ça n'est pas Monsieur Mosser qui a désigné un possible coupable comme étant un voisin, mais c'est quelqu'un d'autre.
D'accord. Voilà. Alors ça, c'est voilà
la. La parenthèse est fermée.
La parenthèse est fermée. On vient à l'essentiel là, parce que
voilà,
parce que ce dossier, vous l'avez lu, relu 1000 fois, et là vous l'alimentez avec de nouveaux éléments.
Oui,
il y a cette histoire de digestion, moi, qui m'a.
Tout à fait, bien sûr.
Il y a d'autres éléments.
Non, mais si vous voulez, au fur et à mesure que j'explorais avec un commissaire de police divisionnaire, le commissaire Vénère, hein, qui m'a servi, parce que je travaille pas seul, parce qu'on peut toujours oublier. Donc le commissaire Vénère, qui a fait 33 plusieurs des affaires criminelles, il a étudié ce dossier. C'est monsieur Mosser lui-même qui lui a donné le dossier, la famille. Donc il a étudié en parallèle avec moi et on a confronté nos points de vue. Moi j'ai découvert un faisceau. On parlait de faisceau d'indices, mais un faisceau d'éléments nouveaux qui n'avait jamais été évoqué par personne. Et donc, le premier élément, c'est celui que vous venez de citer, c'est-à-dire que un élément qui est très important. Monsieur Mosser, c'est pas lui qui dit « je vais vous dire, ma femme avait pris un petit déjeuner ». C'est-à-dire qu'on lui pose une montagne de questions le lendemain. Et parmi toutes ces questions, il y a celle-là. Expliquez-nous le dernier repas de votre femme. Il explique, comme toujours, hein, tous les jours c'est pareil, depuis 20 ans, elle mange toujours pareil, chocolat, tartine de beurre, un petit déjeuner classique, quoi. Et lorsqu'on se reporte à l'autopsie, on voit que l'estomac ne contient...
C'est ça.
Elle contient un liquide sans particules alimentaires. Ce qui veut dire que la digestion avait été terminée et à partir du moment où vous avez du pain, du beurre, c'est une durée de 2 heures minimum.
C'est ça. Donc ce que vous dites,
oui.
On va jusqu'au bout de la démonstration. Oui. Ce que vous dites, c'est que elle a été tuée après.
Bah, évidemment.
Elle a été tuée
après. C'est une certitude.
Et à ce moment-là, si vous le racontez évidemment dans votre requête, oui. À ce moment-là, Éric Moser, il est sur un autre chantier déjà, puisqu'il lui, il continue sa tournée. Lui.
C'est-à-dire que lui, il quitte, comme vous l'avez très bien dit, à 8h15, on le voit, sur la route pour aller voir son premier client. Et ensuite, il y a une succession de 6 clients qui sont d'ailleurs tous en train de dire il était très détendu, très aimable, comme d'habitude. Et ces gens-là témoignent et lui appelle. Donc, il a un alibi, si on peut dire, pendant de 8h15 à son retour. Mmh. Il n'est jamais revenu chez lui. C'est donc, ça. Obligatoirement, si c'est lui, ça n'est que dans la demi-heure de 7h40 à 8h15.
Ouais, c'est ça.
Or, cet élément prouve le contraire.
Eh oui, effectivement, c'est important parce que ça met le doute, effectivement.
Bah, c'est pas que ça met le doute.
Vous appuyez là.
C'est-à-dire que ça amène une preuve formelle.
Oui, ça pose interrogation.
Ah, c'est plus qu'une interrogation. C'est plus qu'une interrogation.
C'est un gros point d'interrogation, je vais dire.
Laurent. Je me permets de vous reprendre. Pour moi, maintenant, votre avis est sûrement, c'est de la prudence. Mais moi, je dis, c'est certain.
D'accord. Alors, mais effectivement, vous croyez à ce dossier, et c'est très bien, vous battez pour ce dossier, et vous avancez, effectivement, en essayant d'avoir ce troisième procès. Alain Cheval, on vous retrouve, journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace. Vous avez suivi cette affaire depuis le début, et votre parole est importante aujourd'hui, pour nous éclairer dans ce dossier. Alors, il y a quelque chose d'important, c'est effectivement, il faut en parler un petit peu, c'est les parties civiles, la famille de la victime, parce que Maître Moser, lui, il s'attendait à ce que ça soit fini. C'était beaucoup clé. Et là, c'est à nouveau le suspense pour cette famille.
Oui, je pense que ça ne changera rien à leur conviction. Ils sont convaincus que c'est Éric Moser, hein, et puis ils ne veulent plus en entendre parler. Mais c'est vrai que cette affaire pose question, parce que dans toute affaire criminelle, il y a forcément un mobile. Et je pense que c'est sur cette idée de mobile que la Cour s'est prononcée à deux reprises. Et c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Et le mobile, on peut très bien imaginer que Isabelle connaissait les frasques de son mari, les frasques sexuelles de son mari, elle en avait parlé autour d'elle, et je pense qu'effectivement, on peut imaginer, le scénario est plausible, qu'il y ait une dispute, qu'elle lui a peut-être annoncé qu'elle voulait le quitter, et le problème, il faut aussi se mettre dans la peau de ce personnage, c'est un artisan, il a tout fait de ses propres mains, son métier, la maison dans laquelle ils habitent, avec la belle famille.
Avec du succès d'ailleurs. Hein.
Avec du succès, c'est quelqu'un qui est un artisan brillant, qui est reconnu, qui tourne très bien, et si on se met à sa place, il se dit que s'il doit divorcer, ben il va devoir passer à la caisse.
Ça va être compliqué, bien sûr.
Tout va être partagé. Et ça, il n'en veut pas. Ça peut être un début de mobile.
On peut voir les choses comme ça. Effectivement, ça peut être un début de mobile. Le mari clame son innocence. Il a bien l'intention de ne rien lâcher. L'affaire Éric Moser, le meurtre de la rue du Château. Je n'avais aucune raison de tuer Isabelle. Je n'étais pas en colère. L'enquête de l'heure du crime. Je vous retrouve tout de suite sur RTL.
chose revient. Plus on s'égare, plus on se retient. En fait, un jour, je pars, l'autre, tu reviens. Comme sur une balançoire, nos deux, ça va, ça vient. C'est toujours toi qui dis que c'est toujours moi. C'est toujours.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Éric Mosser, deux fois condamné à 20 ans de prison pour la mort de sa femme en septembre 2013 dans un village du Haut-Rhin. 8 coups de couteau. Le chauffagiste a toujours nié depuis sa cellule. Il espère la révision de son procès. Éric Mosser, incarcéré à la prison de Saint-Mihiel dans la Meuse, continue à faire savoir qu'il n'a rien à voir avec le meurtre de son épouse Isabelle. Il n'avait aucune raison de la tuer. L'accusation a avancé une menace de rupture de sa maîtresse, Karine, qui aurait provoqué sa colère. Le mari rejette ce scénario. Elle avait déjà rompu Karine tellement de fois pour revenir ensuite, je la connais. Il n'y avait aucune raison de s'énerver, dit-il. L'avocat d'Éric Mosser décrit un crime impossible à commettre en si peu de temps, tuer, se changer, faire disparaître les vêtements et l'arme du crime.
La douche froide. Là, c'est un mauvais rêve. Qu'est-ce qu'on va encore apprendre? Qui est cet homme en face de nous? C'est plus possible. Là, c'est plus possible. Là, c'en est trop. Là. C'en est trop.
La voix de Karine Baudin, c'est la sœur d'Isabelle. Elle était là, d'ailleurs, le jour du meurtre. C'était son interview dans Indice, l'émission Indice sur RMC Story. Ça avait été diffusé en 2020. Maître Claude Laurent, on entend bien depuis le début que les enquêteurs, ils ont essayé de voir ce qui clochait avec cet homme, Éric Mosser, de trouver les failles, de trouver ce qui n'allait pas. Ils ont trouvé tous ces mensonges. Ils ont trouvé ces femmes et ils estiment que il y a peut-être une dispute qui a éclaté. Elle lui aurait dit, Alain Cheval nous l'a rappelé, ce scénario possible, elle lui aurait dit qu'elle allait le quitter, il n'aurait pas supporté et il l'aurait poignardé. Alors, que dire de ce scénario qui est élaboré par les enquêteurs?
Premièrement, ce scénario ne correspond pas du tout au dossier. Puisque on peut voir que à 7h40 déjà dès 7h il est en train de sur son ordinateur pour préparer sa journée.
Il est pas dans un état d'esprit.
Voilà. Deuxièmement, à 7h40 sa belle-sœur le voit prendre du matériel pour mettre dans pour travailler sa journée.
Ça, il remplit sa camionnette.
Voilà. Troisièmement, elle témoigne que sa sœur était tout à fait normale et il y a une enfant qui a assisté à tout ça. Il n'y a pas eu de dispute.
Mais c'est l'enfant qui part à l'école.
Oui.
Donc il n'y a pas de cri.
Voilà, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas une mauvaise.
Mais c'est après, maître.
Disons qu'il n'y a pas une ambiance délétère qui pourrait.
Mais est-ce qu'il y aurait eu des mots après?
Alors après où je dis c'est scandaleux, excusez-moi, je me suis laissé emporter.
Vous faites votre boulot d'avocat, allez-y.
Ça parce que vous avez derrière tout ça un homme qui est depuis 10 ans en prison. On l'a condamné sur ce genre d'hypothèse, comme l'avait très justement dit mon confrère Dupond-Moretti à l'époque. Et au bout de 10 ans, quand on voit qu'il y a des éléments nouveaux qui sont très lourds, très importants, on continue ce genre de choses. Et ça, je trouve que, voyez, c'est nier la souffrance d'une personne qui éventuellement, je dis bien éventuellement, serait depuis 10 ans à tort en prison. Et c'est pour ça que là, je sors de mes gonds parce que.
Mais vous faites votre boulot.
Je représente la voix de ce monsieur qui depuis 10 ans est en prison.
On vous comprend justement. Alors, question subsidiaire, maître Claude Laurent. Vous le voyez, cet homme, vous allez le visiter en prison, je suppose, vous êtes en contact avec lui, vous écrivez, vous communiquez. Dans quel état d'esprit il est aujourd'hui? Est-ce qu'il a compris finalement ce qui lui est arrivé?
Alors,
après 2 procès, il a compris.
Il faut pas attendre d'une personne victime d'une erreur judiciaire que ce soit quelqu'un de parfait. Vous voyez, il a ses défauts, il a d'énormes qualités, mais il continue, lui, Pour répondre à votre question, j'avais posé cette question à un de mes clients qui se disait victime d'erreurs judiciaires. Je lui dis, qu'est-ce que ça fait quand on est victime et qu'on est depuis 10 ans en prison? Cette personne m'avait répondu, c'est comparable à quelqu'un qui a un accident, qui perd l'usage de ses jambes. Les premiers mois, les premières années, on ne peut pas le supporter. Après, on s'y fait.
C'est voilà. Ça. Donc, il s'y fait.
Il s'y fait.
Il s'y fait, mais
sinon, vous vous suicidez.
Oui, il s'y fait, mais il continue à dire, je suis innocent.
Ah ben, il n'a pas arrêté.
Il n'est pas résigné.
Et j'ai dans mon dossier des preuves comme quoi il avait pendant ces 10 ans, sans arrêt écrit, à des autorités pour signaler le cas.
Oui, donc
il a pas commencé la veille.
Hein. Il n'a jamais cessé. Alain Cheval, journaliste aux Dernières Nouvelles d'Alsace, vous connaissez bien ce dossier, vous avez suivi l'affaire depuis le début et vous continuez à la suivre puisqu'elle n'est pas finie cette histoire, elle continue. L'évidence, en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de preuves formelles contre cet homme. On peut douter. Il y a beaucoup de choses dans le dossier qui ont été écrites. Il y a beaucoup de rapports d'experts qui ont été rédigés, mais il n'y a pas de preuves contre lui.
Il n'y a rien, il y a juste un ADN, il faut quand même le rappeler, il y a un ADN qui a été retrouvé parmi les 300 prélèvements, un ADN qui ne correspond à rien, qu'on a trouvé sur une poignée de porte qui permet d'aller, de, je crois, du salon à la cave.
Un ADN masculin ?
Oui, mais qui n'a jamais été identifié, voilà. C'est le seul élément qui cloche dans ce dossier. Tous les ADN et toutes les empreintes qui ont été retrouvées, c'est celles de la famille, des proches, donc il n'y a rien. Et c'est vrai que ce dossier pose question. Et j'ose espérer que la justice ne s'est pas trompée, parce que 10 ans à passer en prison, j'imagine le calvaire de cet homme qui, c'est ce que vous disiez, il a, depuis le premier jour, il crie son innocence. Mais c'est vrai que d'un autre côté, il y a des éléments de personnalité, il y a ce côté théâtral qui ont sans doute pesé. C'est un jury populaire, je le rappelle. Donc, on a des arguments de fait, les textes de loi, mais il y a aussi le jury populaire qui va juger, qui va condamner en son âme et conscience. Et ça, c'est ce qui fait peut-être basculer à un moment le procès et qui le condamne à 2 reprises à 20 ans.
Et puis, on le dit encore, parce que je vous ai posé la question tout à l'heure, mais moi, je suis toujours surpris par ça. Ilfurt, c'est un tout petit village. Mais c'est étonnant que vraiment, mais alors là, que personne n'ait rien entendu, n'ait rien vu.
Pour y avoir été, je crois que quelques jours ou quelques semaines après ce drame, il y a une marche blanche qui a été organisée.
Exact.
C'est vrai que c'est un village où les gens viennent, partent le matin, c'est ce que je disais, rentrent le soir du travail. Il y a une vie de village, donc il y a des fêtes qui sont organisées. Mais l'endroit est un peu isolé, il est en hauteur, et on peut imaginer que personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Et ça, j'en reste convaincu, ça a pu se passer sans que personne ne voit rien. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a fermé toutes les portes, qu'on a enlevé cette histoire de cambrioleur roumain, cette histoire de tueur qui s'était évadé de prison, qui était dans le secteur de Bâle, on a vérifié.
Voilà.
Tout ramène vers la seule personne qui est présente à ce moment-là, et on retombe sur Eric Mosser. Mais j'entends ce que dit Maître Lorenz, j'entends tout ce qu'il dit, et c'est vrai que c'est énervant, et il faut se battre contre peut-être des évidences.
Et c'est ce qu'il fait Maître Lorenz, puisqu'effectivement il demande la révision de ce procès en espérant un troisième procès. Merci beaucoup Alain Cheval et Maître Claude Laurent d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, rédactrice en chef Justine Vigneault, préparation Marie Bossard, Lisa Canales, réalisation en direct de Nicolas Godet.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
Le retour d'M6 Solar avec Il Danse. C'est à écouter maintenant sur Bel RTL.
Je crois que la nana venait du Connecticut. On peut dire que la vie lui mettait des supercuts. Serveuse dans le diner à coup des pommes motel. La porte à tablier qui la rend super belle. Quand les clients arrivent, ils commandent des meatballs. Le regard dirigé vers le match de baseball. Personne ne la regarde, pourtant c'est une beauté. Une femme ordinaire que l'on a sous-côté. Mais dès qu'elle le peut, elle danse en arrière-salle. Personne ne peut voir qu'elle a le méga style. Dès qu'elle le peut, elle danse en arrière-salle. Personne ne peut voir cette danseuse étoile.